plus en plus d'artisans plastiers aujourd'hui qui se disent, alors notamment dans la culture de céréales qui est assez cyclique, enfin cyclique, pardon, très saisonnière plutôt, parfois cyclique, mais surtout saisonnière. Et du coup, c'est intéressant pour l'équilibre de l'activité de transformer ça en pâte ou en biscuit, etc. Idée numéro 3, toujours dans l'alimentation. Alors ça, c'est une idée que je vais pas influencer, mais que j'aime beaucoup. C'est la collecte et la valorisation des invendus alimentaires pour en faire d'autres produits alimentaires ou pas. Tout à l'heure, je parlais de l'empreinte matière première, des empreintes écologiques. Et on pourrait se dire, oui, mais alors, c'est pas évident parce que parfois, sur notre territoire, on n'a pas les ressources. Je suis dans l'est, dans le nord de la France, j'ai pas forcément de fraises, donc je vais forcément devoir les importer, les fraises. Mais en fait, la question des invendus alimentaires, elle est assez centrale parce que c'est de se dire que les fraises, on n'en a peut-être pas sur le territoire parce qu'on est dans le nord de la France, mais dans les magasins, il y a des invendus qui peuvent être réutilisés et qui peuvent être transformés pour en faire des jus, des soupes, des confitures, qui est le cas le plus emblématique. Et puis, si c'est plus comestible, on sait qu'on peut en faire de l'alcool, on peut en faire des pigments de peinture, on peut même en faire de l'alimentation, peut-être pas des fraises, mais l'alimentation pour chiens. Il y a plusieurs start-up qui se sont lancées en France. Donc le réseau le plus connu, c'est Phoenix, hein, qui travaille sur la collecte et la valorisation des invendus alimentaires. Sur les confitures, il y a un exemple qui est en Rhône-Alpes, c'est la marque Rebelle qui effectivement va récupérer ses invendus de fruits et en fait notamment des confitures, d'où le jeu de mots Rebelle. Et pas très loin d'ici, vous avez une start-up à Saumur, je crois, qui est en haut à droite et qui travaille sur l'idée de créer une conserverie solidaire en travaillant, en récupérant les invendus alimentaires, en les transformant et en impliquant dans la production des personnes en difficulté sociale. Et donc voilà, donc c'est quelque chose qui est assez intéressant, c'est réutiliser les invendus sur les territoires, travailler sur les boucles locales et produire de nouvelles façons sur des produits alimentaires, donc sur les territoires. C'est un exemple qui est complémentaire aux deux précédents, mais c'est aussi une manière de transformer sur les territoires sans forcément avoir la ressource à la base. Exemple 4, c'est l'exemple des éco-déchetteries ou des déchetteries inversées, qui fait aussi écho à toutes les questions de matières premières. Il y a des exemples, il y a deux types d'exemples qui existent aujourd'hui. Il y a des éco-déchetteries ou des déchetteries versées professionnelles et d'autres plus grand public. En haut à gauche, c'est un exemple d'éco-déchetterie à destination des artisans où on peut aller déposer ces déchets et aussi en acheter ou récupérer des déchets d'autres artisans donc, qui ont été reconditionnés, etc. Et ça marche beaucoup. Parce que d'abord, en termes de prix, c'est relativement intéressant. Et on est vraiment dans la capacité de créer des boucles locales sur les territoires. Il faut savoir que le BTP, enfin, je pense que vous vous en doutez, la construction, le BTP, mobilise énormément de matières, notamment les minerais non métalliques. Et ces éco-déchetteries professionnelles sont vraiment amenées à se développer. Donc ça, c'est très intéressant. Et il existe aussi le même genre de choses plus grand public, donc il y a le SMICVAL qui est un syndicat mixte, donc qui a développé dans le sud-ouest de la France une déchetterie inversée où on peut donc aller déposer ses déchets classiquement, mais surtout aller chercher d'autres déchets par thème, c'est-à-dire donc là à l'entrée je suis orienté vers des rayons et je peux trouver tout un tas de produits à récupérer. Certains produits remis en état, etc. Et c'est assez intéressant parce que c'est voir la déchetterie dans l'autre sens comme quelque chose. D'ailleurs, l'endroit est plutôt sympa. Hein, il a rien à envier à des centres commerciaux un peu agréables, plus ou moins agréables, on va dire. Mais en tout cas, le lieu est relativement sympa et on peut y chercher pas mal d'objets ou de choses à récupérer plutôt que d'aller les acheter. Et donc, cette déchetterie inversée, c'est quelque chose qui permet de répondre significativement à d'énormes enjeux d'importation de matières premières, je le disais tout à l'heure. Après, je pense qu'il faut développer la culture, parce que c'est pas forcément si facile d'aller acheter ou chercher un déchet, mais c'est quelque chose aussi qu'on retrouve dans les ressourceries au niveau urbain. On a des plus petits espaces où on peut trouver des produits qui ont une deuxième, troisième ou quatrième vie. Donc voilà, c'est quelque chose qui se développe beaucoup et qui est source, voilà, qui peut représenter des activités relativement importantes sur un territoire comme le vôtre. Pas mal d'emplois à la clé. Je parlais de boucles locales. Les boucles locales, c'est-à-dire l'économie circulaire, éviter les déchets dans nombreux domaines pour en faire des ressources locales, ça se développe énormément. Ça existe dans le bois. La réutilisation de menuiserie chez Utopie, tous nos bureaux, les bureaux des 50 salariés, c'est du parquet, c'est de l'ancien parquet qui a été recyclé en bureau. C'est par exemple faire de l'isolation avec du carton. Donc là, il y a des sociétés qui travaillent sur le concept et c'est assez puissant. C'est travailler même dans des petits environnements. L'exemple que vous avez en bas à gauche, une image un peu floue d'ailleurs, c'est en Nouvelle-Calédonie où en fait on recycle les pneus pour faire des terrains de jeu pour les enfants ou des terrains sportifs. Et c'est quelque chose qu'on peut développer à grande échelle. Moi j'aimais bien l'exemple en bas au milieu, c'est la braderie de Lille, une start-up qui a recyclé toutes les boules, des fameuses boules frites de la braderie, et qui en fait des revêtements en fait. Et c'est assez puissant. Bien évidemment, l'exemple peut-être le plus. Celui qui aura demain l'impact le plus important, c'est de se dire au lieu d'aller exploiter des mines dans le monde, on a nous-mêmes des mines, mais c'est des mines urbaines. Et donc en fait, tous les déchets. Métallique, électrique, électronique que l'on trouve, enfin, là où on peut trouver aussi du métal, plus globalement, en fait, on en a partout autour de nous. Donc plutôt que d'aller générer une mobilisation de nouveaux minerais métalliques ailleurs dans le monde, il suffit de travailler sur la question des mines urbaines et la question de leur collecte. Et existe en France plusieurs sociétés qui se sont engagées sur la collecte de tous ces déchets métalliques et de leur tri et de leur valorisation, donc c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Par exemple, ailleurs qu'en France, en Belgique, vous avez un nouveau souffle qui est donné, parce que bon, la Belgique était très en pointe sur la métallurgie, la sidérurgie, ils ont énormément souffert avec le départ de toutes ces entreprises, et ils sont aujourd'hui en train de relancer un cluster autour des mines urbaines, en disant bah, on n'a plus nos mines, mais on a des mines urbaines et on peut revenir sur ce terrain de jeu avec les mines urbaines. Donc ça, c'est quelque chose qui va être assez central dans la manière de les collecter. Sixième idée, la collecte, la rénovation, la vente ou la location de meubles d'électroménager. C'est une des grandes sources de déchets. Existe notamment plusieurs... Vous avez des entreprises, des grandes enseignes comme Boulanger avec Lokéo, qui proposent un service de location d'électroménager, où en fait on loue son produit. Et c'est la cible, c'est surtout les plus jeunes, hein, qui sont peut-être plus sensibles à ces nouvelles offres et moins attachés à la question de la propriété. Louer son matériel, et une fois que son matériel... on a atteint la durée de location et une certaine durée de vie, il est récupéré, retapé, remis en place et reloué à d'autres. Il y a beaucoup d'entrepreneurs du secteur de l'économie sociale et solidaire qui se lancent là-dedans, notamment le réseau Envie, je ne sais pas s'il est présent ici, en tout cas il est bien présent dans le nord et l'est de la France. C'est un réseau qui est très intéressant, qui vise vraiment à récupérer, qui historiquement a beaucoup travaillé sur les produits blancs, et au lieu de les mettre à la benne, les récupère, les retape, récupère les pièces, soit est capable de retaper le matériel en question, et ensuite la remise en vente à des, donc en incluant aussi des populations en difficulté et en les vendant à des prix assez accessibles pour une partie de la population. Et ça, c'est quelque chose, ce sont vraiment des boucles locales qui sont très nettement sous... qui sont assez peu présentes sur les territoires et qui pourraient créer de l'emploi aussi. Idée numéro 7, c'est l'atelier magasin, peut-être renoué, enfin sûrement renoué avec quelque chose qui a disparu, c'est-à-dire avoir de la fabrication adossée à de la vente. On a encore un petit peu les artisans, mais il n'y en a plus beaucoup, qui gardent un peu cette approche-là. Mais on est en train de voir une nouvelle génération de magasins auxquels sont adossés des ateliers dans le domaine des meubles, dans le domaine des textiles. L'exemple que vous avez à l'écran, c'est un exemple de Fab Shop, un magasin fabricant qui est basé à Londres, qui s'appelle Outos Islast. C'est un Français qui l'a créé. Ce magasin fait l'objet de toutes les attentions de tous les grands acteurs de les enseignes de mobilier, y compris les IKEA, qui s'intéressent à ce magasin dans sa capacité à faire avec des prix attractifs des produits qui sont quasiment à la demande et qui sont fabriqués dans un atelier derrière. Et ce magasin, qui est dans un quartier populaire de Londres, marche beaucoup. Je parlais d'IKEA, en fait. C'est un magasin qui fait écho à des enjeux, on appelle ça de production distribuée. C'est-à-dire que beaucoup d'acteurs, par exemple de vente de mobilier ou de décoration, se disent que on pourrait demain, je prenais l'exemple d'IKEA, aller dans un IKEA qui serait, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais un IKEA qui serait un showroom, et une partie des produits serait fabriquée à côté, dans un petit atelier ou dans une micro-usine, etc. C'est en réflexion, par exemple, à Barcelone, où en fait, on va dans un magasin, le magasin est sans stock, et alors après, ça peut être fabriqué avec un certain délai, mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir une réduction de la distance entre le producteur du meuble et le consommateur. Et là, on est vraiment dans une boutique qui arrive à produire pour en grande série. La boutique est toute petite parce qu'en fait, ce n'est qu'un showroom et un atelier qui est assez important derrière qui arrive à écouler quand même beaucoup de marchandises. La micro-usine, dont j'en parlais à l'instant, la micro-usine, c'est de se dire que il y a des domaines où on pourrait se dire, ouais, c'est impossible de produire ça à la maille d'un territoire. S'il y a bien un objet qui aujourd'hui paraît impossible, c'est la voiture. On peut se dire, jamais on n'arrivera à produire des voitures sur un territoire. Et bien en fait, il y a un entrepreneur américain qui a développé Local Motors. Et l'ambition de Local Motors, c'est d'avoir des dizaines d'usines à travers le monde. En travaillant sur des réseaux de designers, d'ingénieurs, etc., et de produire des voitures à un prix accessible. Et pas que des voitures, parce qu'aujourd'hui, ils se sont intéressés à quelque chose qui est peut-être plus facile à vendre et à produire à moindre coût. C'est les petits bus qu'on trouve dans les centres-villes, les minibus, qui existent déjà d'ailleurs sous ces formats-là. Et l'idée, c'est de les produire dans les villes où ils vont circuler. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant parce que c'est. Alors aujourd'hui, ça dépend des produits et des voitures qui sortent, mais les véhicules ne sont pas si chers que ça. Et on arrive à un modèle économique qui est aussi regardé de près par pas mal de constructeurs. Les micro-usines, c'est aussi s'appuyer sur la révolution digitale et les impressions 3D. Il y a un acteur qui s'appelle Voodoo Manufacturing qui est basé à Brooklyn. Et eux n'ont pas de matériel classique, ils ont 200 imprimantes 3D. Et en fait, avec ces 200 imprimantes 3D, ils répondent à plein de demandes qui, jusqu'ici, mettaient des mois, des semaines à arriver, souvent de Chine, et de Chine ou d'ailleurs. Et aujourd'hui, avec ces imprimantes 3D, ils arrivent à travailler sur des matériaux de type plastique, et sur des coques de smartphones, sur des prothèses. Sur la décoration, ils travaillent énormément avec l'industrie du cinéma, par exemple, et ça vient en substitution à une grande filière chinoise où en plus il y a des enjeux de qualité, j'ai cru comprendre. Et Voodoo Manufacturing est en train de réfléchir à un développement à l'international parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on voit bien que même sur des domaines qui paraissent inaccessibles en termes de production locale, on peut et on fait aujourd'hui certaines choses. Neuvième exemple, c'est les déchets alimentaires et les déchets agricoles qui constituent une ressource énorme sur les territoires au plan énergétique. C'est notamment la méthanisation, donc la capacité à transformer des déchets de champs agricoles, les déchets de restaurants, les déchets de cantines, les déchets alimentaires d'habitants et les transformer en énergie. Pour faire du gaz, du biogaz, du carburant, pour en faire des engrais, etc. Et là, par exemple, vous avez l'exemple d'Agribiométhane, qui sont de la région. Et en fait, ce sont des agriculteurs qui ont utilisé des déchets agricoles et qui ont créé toute une filière de méthanisation et qui sont allés jusqu'au développement de stations-service. Donc là, on voit bien qu'on est quand même dans la capacité d'aller assez loin. L'exemple en haut à gauche, c'est à San Francisco, où la ville a lancé un projet où toutes les huiles des restaurants sont utilisées, récupérées, pardon, et font rouler tous les engins publics de la ville. En fait, tous les bus, tous les transports publics, et puis d'autres, tous les véhicules, les acteurs locaux, publics, fonctionnent grâce à la réutilisation des huiles alimentaires. Et puis, enfin, dernier exemple, j'ai assez peu parlé des services dans les exemples que je vous ai présentés, c'est celui des conciergeries. Conciergerie de quartier, conciergerie plutôt axée senior, des conciergeries internes aux entreprises qui, comme un guichet unique, apportent des réponses sur toute une multitude de services aux habitants des territoires, que ce soit des villes, que ce soit des habitants plutôt du monde rural, et d'offrir ce guichet unique pour tous les services. Alors l'idée, c'est quand même aussi de connecter des entrepreneurs locaux et des habitants. Et c'est quelque chose qui, aujourd'hui, se développe énormément. Ça a commencé dans les grandes villes, par exemple à Paris, dans les kiosques. Vous avez ici Allo Bernard qui a ouvert je ne sais plus combien d'agences de conciergerie à Toulouse. Vous avez aussi des conciergeries plutôt solidaires. Donc ça, c'est l'exemple à Bordeaux. Donc c'est quelque chose qui se développe énormément et qui répond à des attentes des habitants, l'idée de se dire voilà, j'ai un lieu unique où je peux avoir des réponses à tous mes besoins, du service du quotidien, ça peut être des besoins ponctuels, de blanchisserie aussi, des services de recherche sur la cible senior. C'est quelque chose qui est assez intéressant parce que, par exemple, un acteur comme Monoprix, je crois, imagine demain ces magasins comme des conciergeries et pas simplement, c'est-à-dire qu'utiliser à l'entrée d'un Monoprix en ville, un service de conciergerie. Je crois que beaucoup d'acteurs de la distribution se posent cette question-là. En tout cas, ça répond à des besoins et à des choses qu'on ne trouve pas forcément sur les territoires. Voilà pour les 10 idées sur l'entrepreneuriat local. Je ne sais pas si dans les 10 idées qui vous ont été présentées, il y en a certaines qui vous semblent prioritaires pour le territoire. Ou peut-être d'autres idées qui n'ont pas été présentées, mais qui vous sembleraient être pertinentes aujourd'hui sur le territoire estuaire ici. Je vous laisse la parole.
Donc, à nouveau, les deux possibilités, soit de lever la main pour pouvoir vous exprimer, soit d'écrire vos questions si ça vous convient mieux. Les membres du Conseil de développement vont passer pour ça.
Oui, bonjour. Les exemples que vous nous avez montrés pour certains sont à l'étranger et je voyais tout à l'heure le recyclage de la ferraille, comme le recyclage d'ailleurs de certains déchets. Les lois françaises sont trop prégnantes par moment pour pouvoir aller jusqu'au bout d'un recyclage local. Est-ce que vous avez dans ce domaine des exemples donc à l'étranger qui sont permis, enfin qui sont possibles, je dirais, mais eu égard aux lois qui le permettent? Parce que la ferraille, tout à l'heure, je voyais votre exemple, vous avez cité effectivement nos voisins belges, qui eux peuvent recycler aujourd'hui les non-ferreux, les ferreux. Nous n'avons plus de sidérurgie, pardon, et du coup, nous, on ne fait plus rien de ces métaux-là, on les envoie chez eux.
Alors, l'image que je vous ai présentée de la mine urbaine, je crois que c'est un exemple français. Je crois que c'est un exemple français dans la région centre, ça doit être BU. Quelque chose comme ça, parce que c'est une entreprise qui s'est dédiée dans les lignes urbaines.
Donc,
est-ce que dans leur environnement, il y a un cadre législatif restreint, je ne sais pas, mais ce qui est assez intéressant, c'est que... Après, c'est plutôt la question des... Moi, j'avais plutôt en tête les débouchés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs start-up qui se sont positionnés sur la valorisation et la collecte. C'est juste qu'il n'y a pas assez d'acteurs derrière pour utiliser ces mines urbaines. Enfin, c'est... Plus que le cadre, vous pensiez à quel type de contraintes
Mais chez nous, généralement, ce qu'on récupère, on l'appelle toujours un déchet. Et tout à l'heure, vous parliez des matériaux valorisables. Hein, je vais vous donner qu'un exemple qui me parle, c'est le mâchefer, qui reste toujours un déchet, alors qu'il a des propriétés, entre autres en matière routière, qu'on peut utiliser, mais pour tout le monde, c'est toujours un déchet. Voilà un exemple concret. Donc, il en est sorti, je ne sais pas, en bon an, mal an, 250 000 tonnes, à peu près dans le Grand Ouest, là, qu'on a un mal fou à recycler et à utiliser en lieu et place des minerais, des matériaux de carrière, tout simplement.
Alors ça, par contre, effectivement.
Et là, par contre, là, c'est la force du lobbying. Hein. C'est pas du coup la loi, mais la loi, elle n'aide pas quand même, parce que les donneurs d'ordre, par exemple, ne sont pas forcément force de proposition pour utiliser ça.
Effectivement, sur l'exemple que vous citiez, le passage du déchet à la matière, enfin, le reconnaître un statut autre chose que déchet, c'est un vrai point. Je sais qu'il y a beaucoup de juristes et d'avocats qui travaillent pendant longues heures là-dessus, mais c'est pas évident. Après, c'est, enfin, les produits métalliques, c'est pas le seul domaine où un autre statut que déchet existe, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font en dehors de cadres. Typiquement, sur les produits alimentaires, je sais que c'est pas toujours évident dans les invendus alimentaires, c'est limite borderline. En fait, c'est la pratique entrepreneuriale qui fait bouger la loi, en fait.
Et oui, c'est vrai.
C'est pas le seul domaine, en fait. C'est malheureusement... C'est ce qui risque de se passer dans plein de domaines. C'est-à-dire qu'après, les acteurs de la valorisation des déchets alimentaires font bouger la loi en permanence, parce que sinon, le cadre est pas adapté. Alors, je vous accorde que sur les produits métalliques, ça risque d'être un petit peu plus compliqué que sur les produits alimentaires, encore que, j'en sais rien. Mais effectivement, mais d'où l'enjeu des acteurs publics sur la plupart de ces projets, parce qu'en fait, on ne parle pas que d'un projet entrepreneurial isolé, on parle de création de filières.
Donc, oui, tout à fait. Ben, les déchetteries, tout à l'heure, inversées, ça me paraît très intéressant. Les gens qui font, on porte le terme vulgaire de chiffonnage, mais depuis toujours, les gens récupèrent des choses, soit pour les réparer, soit pour en retirer autre chose, des pièces dedans, etc. Mais c'est vrai que dans les déchetteries, par exemple, on est plutôt à empêcher les gens de récupérer ce qui arrive. Donc j'aime bien cette formule à dire de déchetterie inversée, moi, parce que ça, pour certains qui ont un peu d'idées, elles peuvent récupérer un tas de matières premières.
Les exemples que je vous ai montrés existent depuis un an ou deux, donc on n'a pas encore le recul nécessaire pour se, enfin,
non, mais ça va dans
bien
conscience.
Comprendre ce qui peut y être échangé, vendu, etc. Mais en tout cas, ça bouscule les habitudes de consommation et c'est quelque chose, je pense, qui va amener. En l'occurrence, les éco-déchetteries que je vous ai présentées sont des exemples publics, hein, qui ont été vraiment poussés par les acteurs publics avec des investissements conséquents. Mais bon, quand on voit l'importance de la gestion des déchets et des déchetteries sur les territoires, enfin, c'est quelque chose qu'ils ont fait en connaissance de cause, en sachant très bien que ça n'allait pas forcément coûter beaucoup d'argent. Et en l'occurrence, ça fonctionne vraiment très bien. Ça vide les déchetteries assez vite. Quoi. Ouais. Et en fait, ça pousse aussi les gens à amener dans ces déchetteries inversées des choses qu'ils gardent chez eux. Enfin, il y a aussi des choses. Ça permet de recréer un circuit économique local.
Oui, la recyclerie d'ici fonctionne bien sur ces titres-là. C'est sûr que. C'est déjà un bon exemple, mais la déchetterie inversée, ça serait très bien.
Ouais. Ça a un impact.
Une autre question ?
Oui,
bonsoir.
Une réflexion et une question en même temps. Par rapport à l'autonomie alimentaire des aires urbaines, vous parliez de 2 à 3% d'autonomie. Effectivement, sur notre département, on est producteur de viande et de lait, principalement. Et on a quasiment plus d'abattoirs, si ce n'est un à Châteaubriant. Donc je suppose qu'il n'a pas dû être pris en compte dans votre calcul. Et comment on fait ? Est-ce que, parce que dans les exemples après que vous nous avez montré tout à l'heure, vous avez parlé d'une micro-abattoir, mais le micro-abattoir, il ne va pas répondre aux consommateurs aujourd'hui qui veulent des plats préparés et des steaks hachés. Comment on arrive à recréer une mini-industrie quelque part et comment après on fait aussi pour la valoriser ou obliger le territoire à acheter cette viande-là plutôt que d'aller l'acheter à l'étranger où elle est moins chère.
Sur les calculs d'autonomie alimentaire, tout a été pris en compte. C'est-à-dire que le fait qu'il y a assez peu d'abattoirs, justement, ça joue dans les calculs. le micro-abattoir, aujourd'hui, il y a plein de réflexions sur les micro-abattoirs. Il y a la Fédération nationale, je ne sais plus laquelle, qui a porté justement le sujet qui s'appelle modulable, que je vous ai présenté à l'instant. La question des micro-abattoirs est aussi en réflexion dans des grands groupes alimentaires qui se disent, au lieu d'avoir un site de production en Vendée, pas les citer, je pourrais très bien en avoir 50 à travers toute la France et répondre et d'avoir des micro-abattoirs qui soient soit très micro, soit un petit peu moins micro, mais qui puissent aller progressivement vers la première transformation, la deuxième transformation. Par exemple, un acteur qui fait des plats cuisinés pourrait très bien dire, bon, voilà, j'ai les micro-abattoirs qui vont fournir mon usine régionale. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'aller au consommateur avec les produits qu'il consomme. C'est pas faire du micro-abattoir pour répondre à une demande. C'est vraiment l'idée, c'est de répondre à une demande locale. Donc la réflexion aujourd'hui, c'est comment ces micro-abattoirs s'intègrent dans une chaîne de production locale qui répond à la demande locale. C'est vraiment le cahier des charges. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est justement de développer des micro-abattoirs pour éviter que cette chaîne locale se casse. C'est-à-dire que si vous avez plein d'éleveurs mais qu'il n'y a pas d'abattoir à moins de 100 km, vous ne risquez pas de retrouver la viande dans les assiettes des consommateurs locaux. Les micro-abattoirs répondent vraiment à cette volonté de faire en sorte que la viande locale, enfin, consommée dans les assiettes, ça soit issue d'élevages locaux. C'est vraiment ça l'objectif. Hein. En tout cas, dans l'idée de... Alors après, je vous invite à regarder en détail les micro-abattoirs. Il y a des niveaux. C'est-à-dire vous avez des niveaux de transformation. Il y a un équipement qui va être très light et puis des équipements qui vont aller jusqu'à la transformation. Alors, je ne sais pas si ça va aller sur le steak haché, mais il y a vraiment la volonté de produire des choses assez finies à la maille des exploitations. Enfin, c'est l'objectif, en tout cas, annoncé. Et c'est assez technique. Après, il faut vraiment regarder les fiches techniques. En l'occurrence, celui que je vous ai montré s'appelle Modulab.
Une question au fond de la salle, en haut, là-bas. Oui, c'est vachement, oui.
Oui, c'est.
Bonsoir. Moi, je voulais revenir aussi un peu. Enfin, je suis un peu à la suite de ce que vient de dire le monsieur, là, par rapport à tout ce que vous nous avez proposé sur, par exemple, récupération d'invendu, par exemple. Ça peut aussi répondre à la question de la dame tout à l'heure. Moi, j'ai de la peine à croire que sur un territoire comme chez nous, on va avoir de quoi fournir une petite entreprise qui veut s'installer dans ce genre de choses. On a malheureusement un exemple ici à Savenay où, enfin, lui qui sait très bien, on a voulu monter une légumerie qui n'a pas eu assez de fournisseurs pour continuer, hein, pour vivre en fait. Et moi, j'ai du mal à croire qu'une entreprise peut fonctionner avec que des invendus ou des... Alors ce sera hors territoire, parce que... Bon.
Non, en fait, c'est la notion de local que l'on définit. Moi, je vous connais des modèles entrepreneuriaux locaux. Tous n'ont pas le même périmètre d'action, on est bien d'accord. D'abord, ce sont souvent des marques qui sont plutôt à dimension nationale et puis qui développent plutôt des réseaux régionaux. En l'occurrence, la marque les confitures rebelles, on est sur une dimension plutôt régionale en Rhône-Alpes. Bien évidemment, après, il faut adapter au territoire. Enfin, c'est l'exemple du plastique tout à l'heure. Nous, on travaille pas mal dans des îles, donc on est sur des territoires de petite taille, et on connaît un entrepreneur qui a lancé une société de recyclage de bouteilles. Il a investi des millions d'euros en Martinique, je crois. Puis en fait, la société, elle ne marche pas parce qu'il n'y a pas assez de bouteilles. Néanmoins, je pense qu'il faut adapter le territoire. Ça marche parce que les exemples que je vous ai listés sont des exemples qui marchent, c'est-à-dire que le Phoenix, Rebelle, en l'occurrence, ce qui est assez intéressant, c'est d'arriver à avoir un système de collecte qui est le plus transversal possible. Moi, je pense qu'à la taille d'un territoire de 30, 40, 50 000 habitants, mais il faut avoir un maximum de partenaires, avoir un maximum de points de collecte. Et je vous accorde qu'effectivement, si vous n'avez que 3 partenaires ou 3 hypermarchés, ça va être un petit peu compliqué. Et peut-être étendre la solution, mais en l'occurrence, les quantités collectées par les réseaux que je vous ai cités sont relativement importantes. Prenez un hypermarché Hyper-U qui est à côté ici, je ne connais pas leur pratique. Je pense que, vu la taille de cet hypermarché, on doit être sur des quantités astronomiques potentielles. Après,
ils en redonnent aussi.
D'accord, oui, mais ça, c'est après ça.
Voilà, non, mais je veux dire, ça va aussi au Resto du Cœur, ça va aussi à la Croix-Rouge, ça va aussi.
C'est
voilà,
tout à fait normal. Mais en l'occurrence, je pense que, après, c'est de la seconde. Sur les rebelles, on est aussi sur des produits qui ne sont pas mis en magasin. Parce qu'en fait, pas assez beau, d'où le mot rebelle. Et je pense qu'ils se sont positionnés sur. Après, il n'y a pas que le magasin, il y a la chaîne agricole, c'est-à-dire qu'entre le champ et le magasin, il y a énormément de points de déchets. C'est-à-dire que déjà dans le champ, on enlève une partie en disant, mais ça, de toute façon, ça ne passera jamais le cap. Ensuite, quand ça arrive chez le grossiste, on en enlève encore. Quand on arrive en magasin, on en enlève encore. Donc il y a quand même. Et puis ensuite, il y a ce qui est invendu. Donc quand je parle d'invendu alimentaire, en réalité, il faut penser toute la chaîne de déchets alimentaires tout le long. Et je crois que c'est 30 ou 40% de déchets en partant du champ jusqu'au magasin. Là, ça fait beaucoup du potentiel. Après, il faut calibrer. Hein. Les exemples qu'on vous présente ici sont des exemples qui peuvent être dimensionnés à la maille de votre territoire. Naître ici, il peut être rayonné légèrement au-delà, mais vous avez quand même, ça peut être perçu comme parfois une limite, vous êtes quand même entre deux métropoles, notamment une, dans laquelle il y a un certain potentiel aussi. Donc je pense que tout est une histoire de dimensionnement. Et typiquement, les acteurs qui se lancent sur ces marchés-là sont souvent seuls. Enfin, moi, j'en connais plusieurs. Et sont assez peu aidés par les chambres professionnelles, parce qu'en fait, on ne sait pas si c'est des agriculteurs, des artisans, on ne sait pas où on les mettre. On ne sait pas à quoi ils correspondent. Ce sont des gens qui sont souvent des anciens codes blancs qui se sont reconvertis. Donc en fait, faire une entreprise basée sur les invendus alimentaires, c'est un métier sur lequel il n'existe pas de formation en France. Donc de là à faire une étude marketing, une étude de faisabilité, et quel est le bon périmètre, c'est pas évident. Donc en fait, c'est bien l'enjeu d'arriver à encadrer tous ces nouveaux entrepreneurs et de les aider à déterminer le bon territoire. J'ai pas présenté d'exemple textile, mais aujourd'hui, il existe des filières de textile locales, des marques locales. Bah, le périmètre, il va être beaucoup plus régional, voire France, que local. C'est assez difficile de faire du recyclage de textile et d'en faire des vêtements locaux, encore que il existe des exemples, par exemple, dans le textile technique. Tous les déchets de textile technique à la montagne sont récupérés par des start-up, notamment une ou deux, qui refont d'autres produits techniques et qui les revendent sur place. Parce que le marché des touristes, il est suffisant. Voilà, en fait, il n'y a pas de. Voilà, tout est adapté en fonction du contexte.
Merci. Nous allons passer à la troisième partie, si vous voulez bien.
Je voulais savoir s'il y avait eu une étude qui avait étudié un petit peu ou sondé ou avoir des ratios sur le pourcentage de la population capable d'aller vers des commerces locaux ou courts, etc. Parce que finalement, moi je vais assez souvent au supermarché parce que je suis toujours très pressé et je trouve dans le magasin tout ce que je peux. Je ne vois pas tellement, je n'ai pas trop le temps d'aller dans des magasins spécialisés, enfin bio ou autres. Qui sont très, très louables, hein, il n'y a pas de souci. Et je pense que là aussi, il y a des prix de vente qui sont plus élevés que dans les grandes surfaces.
Alors, il y a deux questions en fait en une. Enfin, deux questions. Deux éléments. Il y a la question du format et du prix.
Ouais. Quelle population y va ?
Oui, population. Du même avis que vous, fait quelque part, finalement, on peut tous comprendre que c'est assez compliqué d'aller dans des formats spécialisés, de magasins. En même temps, on voit par exemple les grandes enseignes spécialisées, meubles, jouets, culture, etc., se recentrer dans les centres-villes aujourd'hui. Alors, il y a toute la problématique des cœurs de ville, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un problème de fréquentation des grands magasins avec Internet. Et donc aujourd'hui, vous avez beaucoup d'enseignes qui se posent la question de revenir dans les centres-villes avec des formats différents, parce qu'en fait, il y a aussi une population, ça dépend des villes, mais avec un revenu un peu plus supérieur. Donc on a aussi, en même temps, peut-être pas dans la grande distribution alimentaire, mais dans les grandes enseignes spécialisées, il y a un problème de fréquentation et du coup ils s'intéressent de plus en plus à des petits formats en ville. Donc on voit bien aussi qu'il y a aussi le mouvement inverse et que je pense qu'il y a la place pour les deux. C'est-à-dire que bien évidemment on ne va pas... et en l'occurrence, dans les exemples que j'ai présentés, il n'est pas question d'aller contre la grande distribution. Parce que la preuve, la grande distribution, je crois qu'à plusieurs moments, j'ai dû vous dire qu'elle s'intéresse à des formats de micro-production à côté. En fait, la grande distribution, c'est souvent celle qui s'intéresse le plus à ces concepts-là, parce qu'en fait, ça lui apporte une nouvelle, un nouveau souffle en fait, commercial. Donc je pense qu'après, on va avoir une coexistence de tous ces modèles économiques. Mais c'est la question du prix qui est assez intéressante, parce que quand on parle... Made in local, on légitimement pense à un prix supérieur, et c'est pas faux, parce que traditionnellement, sur le made in local, on est sur un produit de qualité, avec des coûts locaux, etc. Ce qui est assez intéressant, c'est que aujourd'hui, dans la plupart des exemples que je vous ai présentés, arrivent à vraiment baisser les prix, typiquement travailler sur de la ressource en boucle locale, en économie circulaire, c'est quand même des gains économiques relativement importants. Une fois qu'on a réussi à bien optimiser le circuit de collecte, c'est quand même de la ressource qui est disponible et qui ne coûte pas grand-chose. Et là, on arrive, par exemple, dans les conserveries solidaires, on arrive à avoir des prix relativement abordables, si je compare aux grandes marques. Je ne compare pas forcément au MDD ou au premier prix, mais relativement aux grandes marques, on a des prix qui restent relativement accessibles sur des produits de qualité locaux. Donc, dans toute la réflexion sur les boucles locales, la micro-fabrication, dans le cadre de la micro-fabrication, les économies d'échelle n'ont pas de sens. En fait, l'économie d'échelle, c'est un truc qu'on a inventé par rapport à une production de masse. Mais aujourd'hui, on arrive à produire dans des micro-usines, je vous ai présenté des exemples, tout un tas de produits très différents, très traditionnels, avec du bois, du plastique, ou des nouveaux matériaux, des biomatériaux, par exemple. On arrive à produire des choses à des coûts relativement bas, parce qu'en fait, on ne se pose pas la question de l'économie d'échelle. On est sur des petites séries. Aujourd'hui, j'ai lu il y a quelques jours que dans le domaine alimentaire, les micro-marques, aux États-Unis, la croissance, elle est autant liée à 10 000 marques que les 50 premières. C'est-à-dire que les consommateurs sont hyper attachés à des toutes petites marques qu'on peut trouver sur Internet ou ailleurs et qui sont capables de répondre très vite à la demande. Donc sur des petites séries, des micro-séries. Donc du coup, la question de l'économie d'échelle avec un prix élevé, c'est quelque chose qui se pose moins. Donc il y a bien évidemment une vision du made in local très, très qualitatif et qui sera toujours sur un prix supérieur. Et sur ce point, on peut aussi dire que c'est le vrai prix des choses, le vrai prix des prix bas. C'est-à-dire que quand vous avez un t-shirt à 2 euros dans un magasin, et ben ce 2 euros, il veut dire plein de choses. Il a des impacts économiques, des impacts sociaux, des impacts environnementaux. Un t-shirt à 2 euros, c'est un t-shirt à 2 euros, c'est difficilement sans impact. Donc il y a le vrai prix des choses, et après c'est une culture de la consommation, c'est peut-être plutôt dans des investissements, considérer un vêtement comme un investissement plutôt que 50 vêtements. Et puis après, il y a aussi quand même, ce que je disais à l'instant, un made in local qui sera quand même de plus en plus accessible parce que de la micro-production plus compétitive, parce que des boucles locales qui font qu'on n'a pas forcément besoin d'acheter la matière première parce qu'elle est disponible, etc. Ben, l'exemple des mines urbaines, une fois que ça sera maîtrisé, c'est quand même la capacité de créer de la production avec des coûts relativement bas. Mais après, vous dire que le made in local sera forcément toujours compétitif, ça serait faux de le dire. Donc en fait, après, c'est juste une question de rééquilibrage. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'idée, c'est d'arriver sur un made in local qui soit relativement compétitif pour qu'on puisse réenraciner 10 à 15% de nos économies. L'idée, c'est pas de faire du 100% local, parce que de toute façon, c'est impossible avec la mondialisation et les coûts dans lesquels on vit.
Il va nous falloir progresser vers la troisième partie. Pour clore cette seconde partie, un participant a répondu à la question d'idées en termes d'entrepreneuriat local. Et la personne indique le recyclage des bateaux en gîte dans son jardin et l'espace de coworking original en ville, à Nantes. Voilà.
Dans les idées, il y a une idée presque entrepreneuriale, et puis une idée qui vise à soutenir les entrepreneurs. Et ce qui est fondamental, en fait, c'est de se dire, bah, tous ces entrepreneurs, il va falloir trouver des solutions pour les polliniser, un peu comme on pollinise des fleurs. Il va falloir arriver à faire émerger tous ces entrepreneurs. Et là, pour le coup, bah, il y a peut-être des solutions publiques, il y a aussi des solutions privées, des solutions citoyennes. Et donc là, je vais vous présenter des exemples français, des exemples internationaux, une fois de plus, qui me paraissent impactants, c'est-à-dire, tout comme les exemples entrepreneuriaux, je ne l'ai pas précisé, mais c'est des exemples qui me paraissent impactants, pas simplement sympas, qui peuvent avoir un vrai impact sur l'économie locale. Ben voilà, là, l'idée, c'est 10 idées pour soutenir les entrepreneurs de territoire. Et peut-être que dans ces 10 idées, c'est de se dire, bon, voilà, on peut attendre de la sphère publique ou nous-mêmes, on peut devenir des acteurs qui aident les entrepreneurs. Le premier exemple, c'est celui des incubateurs. Alors, des incubateurs sectoriels, des incubateurs thématiques. Pour rebondir sur la vraie question alimentaire qui a été pas mal discutée ce soir, un exemple qui est très intéressant, c'est celui des incubateurs de start-up alimentaires. On parle de Food Lab. Pour agriculteurs, pour cuisiniers, pour tous les habitants. Ça peut prendre deux formes. Par exemple, donc des incubateurs de start-up alimentaires. Donc là, c'est l'exemple de Foodwork, toujours à Brooklyn, qui est un incubateur public qui est géré de façon privée et qui offre pour $200 par mois la possibilité d'accéder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à un laboratoire, une cuisine, de créer ses propres produits alimentaires avec des partenariats signés avec des distributeurs locaux qui permet, et moi je l'ai vu de mes propres yeux, en 24 heures d'avoir des produits en magasin. Il y a des gens qui sont arrivés et qui 24 heures après arrivaient à avoir des produits en magasin et de les tester. Donc c'est dans un quartier qui est assez difficile et en fait Foodworks a aujourd'hui 150 ou 200 résidents, c'est beaucoup, et permet de faire émerger des dizaines de start-up très connues aujourd'hui aux États-Unis qui produisent tout un tas de choses, pas forcément toujours light, genre des bonnes glaces ou des snacks, très américains donc, mais en tout cas, ce sont des choses assez intéressantes et qui, à la base, après, ont pris de l'ampleur aux États-Unis voire à l'international, mais ce sont beaucoup de start-up qui ont commencé à fournir le marché local. Et c'est un exemple assez intéressant. Après, il peut y avoir des food labs plus, dans une tradition peut-être un peu plus française, à disposition des agriculteurs, donc des lieux mutualisés avec des produits de transformation, des produits pour emballer, pour étiqueter, voire même envisager une marque commune. Donc ça, ce sont des projets qui aujourd'hui n'existent pas forcément beaucoup, mais qui sont, je sais, en réflexion dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de territoires. Chaque fois qu'on parle de Food Lab à des élus, c'est toujours, effectivement, c'est ça qu'il faut qu'on fasse pour soutenir nos agriculteurs. En tout cas, proposer un espace partagé, parce que tout à l'heure, je présentais l'exemple des artisans pastiers ou des éleveurs qui font eux-mêmes leur yaourt. C'est un investissement. Un laboratoire pour devenir artisan pastier, c'est 30, 40, voire 50 000 euros d'investissement. Et encore, c'est deux machines. Et puis après, il y a tout un tas de... Donc après, ce qui est assez intéressant, c'est voilà, un espace partagé pour permettre la transformation quand on a les ressources agricoles locales. Et ça, c'est vraiment l'enjeu de la transformation. Donc voilà, ça peut être un public ou privé, en tout cas porté par quelle que soit la nature de l'acteur. Depuis une dizaine d'années, il y a une tendance qui émerge, c'est celle du do it yourself. C'est une tendance qui existe depuis en réalité 200 ans. En contestation de la révolution industrielle, il y a toujours eu les mouvements du do it yourself. Ça a toujours existé et ça prend forme depuis une dizaine d'années sur le format des Fab Labs, des milieux de fabrication. Ces Fab Labs sont souvent associatifs, sont souvent des lieux un petit peu où on bidouille ou qui sont ouverts au public et qui sont hyper intéressants en tant que laboratoire du changement social, mais ne sont pas forcément des lieux qui permettent de soutenir les entrepreneurs. Et pour répondre à cette demande-là, émergent depuis quelques années des Fab Labs professionnels, encore une fois poussés par des acteurs privés ou des acteurs publics, qui visent à permettre aux entrepreneurs de faire du prototypage, de la mise en place de petites séries. Vous aviez par exemple à Paris le plus grand Fab Lab européen qui s'appelle Usine.io, qui permet à des entrepreneurs de se lancer et d'avoir accès à des machines, du design, des services, etc. Ces Fab Labs professionnels, c'est ce qu'on trouve aujourd'hui par exemple aussi aux États-Unis et dans certains Fab Labs français où il y a une offre qui n'est pas seulement pour les makers un peu amateurs, mais qui est de plus en plus ouverte aux professionnels, aux entrepreneurs. Donc après, on peut aussi avoir un Fab Lab multiple qui peut être ouvert à tous ceux qui veulent bricoler sur le territoire, qui peut être ouvert aux enfants, qui peut être ouvert aux écoles et aussi aux entrepreneurs pour leur permettre de tester une offre. Dans cette logique du faire local, il y a un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui de Knoxville. Donc c'est une petite ville du Tennessee. Et son maire a décidé d'en faire The Maker City, la ville qui est productive, la ville qui fabrique. Et sa première mesure a été de créer un conseil de la fabrication locale. Donc un conseil de la fabrication locale qui est directement lié au maire, d'une quinzaine de personnes, qui est représenté au conseil municipal. Qui donc a un rôle très très important, un peu un conseil du développement, mais uniquement sur la fabrication locale. Et donc il y a un droit de regard et un droit de participation au débat local sur comment on utilise le foncier pour les producteurs locaux, comment tout ce qui est imaginé dans la ville pour la production locale, voilà, chaque fois qu'il y a un plan d'urbanisme, à chaque fois qu'il y a une décision, elle est toujours regardée avec un regard fabrication locale. Et ce conseil de la fabrication locale organise chaque année un événement, fait des formations pour les entrepreneurs, a un guichet unique de la micro-fabrication locale, a une boutique, a une marque locale, organise des événements et des formations avec Etsy. Je ne sais pas si vous connaissez la plateforme, la place de marché internationale qui permet d'accéder à des produits faits-main artisanaux dans le monde entier. Avec ce mouvement-là, ils arrivent à créer des partenariats et aider les producteurs locaux à accéder aussi à une demande qui va au-delà du local. Et c'est vraiment un exemple très intéressant de la façon de mettre du local dans la politique publique locale. Quelque chose qui est peut-être un peu plus dans l'air du temps, mais ce sont les plateformes web qui visent à donner de la visibilité et mettre en relation les consommateurs et les producteurs locaux. Ça paraît assez bête de dire ça, mais ça n'existe pas forcément. Et ça n'existe pas forcément sous l'angle de la production locale. Donc là, c'est MakeWorks, qui est une plateforme qui existe dans les pays britanniques, notamment, et qui vise vraiment, avec une plateforme web super intéressante, d'accéder à un descriptif de tous les producteurs locaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors ça peut être fait à une maille micro-locale, Knoxville l'a fait, et ça peut être fait aussi envisager une maille un peu plus importante, régionale ou autre. Donc pour répondre effectivement à la demande, la réflexion de tiers lieux, de coworking, ça c'est assez intéressant, non pas pour surfer sur la vague des tiers lieux, des coworking, que beaucoup de territoires se lancent dans cette mode des tiers-lieux. Il y a un plan national des tiers-lieux de l'État qui a été lancé. Ce que je trouve assez intéressant sur un territoire, par exemple, comme le vôtre, c'est cette capacité à retenir, à attirer des cols blancs, c'est-à-dire des personnes qui vivent ici, mais qui travailleraient ailleurs, et les retenir sur une partie de leur temps. Donc, ça développe beaucoup le télétravail. Donc, des personnes qui vont travailler ailleurs et qui pourraient trouver un lieu pour se poser en dehors de chez eux. Sachant que le télétravail n'est pas toujours évident à domicile. Et ces coworking un petit peu, qui visent à attirer des cols blancs, c'est-à-dire des personnes qui résident et se développent beaucoup, même dans des territoires qui sont assez lointains. Nous, on accompagne des territoires de montagne qui développent des espaces de coworking pour permettre aux personnes d'arriver le jeudi ou le vendredi s'ils ont des maisons secondaires ou s'ils sont là en week-end, et puis de rester sur le territoire. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est assez intéressant sur, on parlait des flux tout à l'heure, des flux résidentiels. C'est essayer de garder un petit peu plus sur le territoire ces personnes-là, permettre aussi d'avoir des espaces hybride, on peut très bien travailler sur le coworking et Fab Lab, ce que font beaucoup d'espaces en France pour permettre à ces entrepreneurs d'avoir un espace pour s'exprimer. Une démarche qui est très intéressante pour stimuler l'entrepreneuriat de territoire, c'est la démarche Start-up de territoire. C'est une ancienne collègue d'Utopie qui a lancé ça il y a quelques années, qui l'a lancé à Strasbourg. Le point de départ de Start-up de territoire, c'est de dire on va faire du territoire une énorme start-up. On va proposer à tous les citoyens, quelle que soit la casquette, quelle que soit l'activité économique, de participer périodiquement à des grands brainstorming, alors on dit des hackathons sinon, des brainstorming géants pour créer les emplois de demain. Par exemple, à Strasbourg, donc là c'est l'image que vous avez là, en bas, plutôt à droite, à Strasbourg, ils se sont réunis l'an passé, ils étaient 2000 dans une salle, c'est quand même beaucoup, et en fait, ils ont fait travailler les citoyens sur des défis. Donc en fait, il y a dizaines de défis qui sont lancés. Alors ces défis peuvent être flous, peuvent être plus ou moins orientés. Par exemple, ce que vous listiez tout à l'heure sur le besoin de développer une filière donnée. Donc en fait, on va faire bosser des experts, des gens qui peut-être ont un avis au moins sur la situation, et on fait brainstormer tout le monde sur qu'est-ce que l'on peut faire ensemble sur le territoire pour répondre à cette question. Par exemple, vous pourriez faire ici un start-up de territoire en disant ben voilà, aujourd'hui on a 10 grands enjeux et on se met à une dizaine ou une vingtaine et puis on essaye de faire émerger des idées. L'intérêt, c'est que souvent dans ces mouvements start-up de territoire, il n'y en a aucun qui se ressemble d'un territoire à l'autre, il y en a une dizaine en France. Parfois, c'est porté plutôt par des acteurs publics, d'autres un peu plus citoyens, parfois un peu privés, mais l'idée, c'est qu'après, on puisse avoir trouvé les ressources en interne pour incuber. Si émerge un entrepreneur, et ben on l'incube, on l'aide, on essaie de le financer, etc. Il n'y a pas de recette. Il y a des événements, mais ils ne se déroulent pas forcément toujours de la même façon d'un endroit à l'autre. Je vous invite vraiment à regarder leur site internet et de naviguer sur des... Je crois pas que des startups de territoire, il y en a beaucoup dans le Nord-Ouest. Mais c'est assez intéressant pour impliquer les citoyens dans la démarche d'innovation territoriale et les faire brainstormer et que ce soit sur les projets entrepreneuriaux, quel que soit le secteur. Un point qui est important sur les territoires, c'est la question de l'entrepreneuriat féminin qui est malheureusement sous-représentée. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que l'entrepreneuriat féminin, c'est celui qui est surreprésenté dans les exemples entrepreneuriaux que je vous ai présentés, pour plein de raisons, sociologiques, etc. Et typiquement, être capable de soutenir l'entrepreneuriat féminin, c'est se donner la possibilité d'arriver à faire émerger ces emplois locaux. Donc l'entrepreneuriat féminin, je n'ai plus les chiffres en tête, mais et au moins, je crois, deux fois plus représenté dans l'économie de proximité. Sauf que l'entrepreneuriat féminin est plus difficile à un titre, c'est-à-dire que les femmes qui se lancent, les entrepreneurs qui se lancent sont beaucoup moins nombreuses, il y a des freins psychologiques, etc. Et vous avez par exemple des mouvements qui existent ici, pour le coup. Donc il y en a deux, alors il y en a un qui s'appelle Femmes de Bretagne, mais en fait qui est aussi présent dans la région Pays de la Loire, et qui regroupe plusieurs milliers d'entrepreneurs, je disais entrepreneurs, mais on ne peut dire entrepreneurs, et qui les regroupe suite au succès de Femmes de Bretagne. La fondatrice Marie-Éloi a développé un concept que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bouge ta boîte, et en fait ce sont des réseaux, des clubs de chefs d'entreprise, femmes qui se regroupent périodiquement dans des villes, dans des petites villes, elles sont 10 ou 20, elles se connaissent, en fait, elles se challengent, elles s'aident, elles sont dans des secteurs différents la plupart du temps, elles s'aident mutuellement, et ça aide quand même à stimuler et la création et le développement de l'entrepreneuriat sur les territoires. Donc ça prend la forme de cycles de rencontres, d'ateliers, de réunions, et sinon de rencontres, de petites rencontres de 2 à 2. Pour soutenir l'entrepreneuriat sur les territoires, bien évidemment, la question financière est centrale. quelque chose qui est assez paradoxal, c'est souvent de voir l'écart qui existe entre l'épargne, la capacité d'épargne sur les territoires et les besoins des entrepreneurs locaux. Et c'est en ce sens que les plateformes de crowdfunding, donc le financement faisant appel à la population, à travers du don, c'est-à-dire je donne de l'argent et en échange on me donne des produits, en prêt, donc je prête de l'argent, ou j'investis en capital, je prends des parts d'une entreprise. Les plateformes de crowdfunding locales se développent de plus en plus. Elles sont portées maintenant, de plus en plus de territoires lancent des appels d'offres ou réfléchissent à développer la propre plateforme. Vous avez des acteurs privés d'une certaine importance, comme des banques, pour ne pas les citer, Crédit Agricole, qui développent des plateformes de crowdfunding locales. Vous avez des plateformes citoyennes qui se développent. Bref, il existe de plus en plus de plateformes de crowdfunding qui visent à faire en sorte que l'épargne des habitants aillent véritablement et directement et répondent vraiment aux besoins des entrepreneurs locaux. Se développe surtout, par exemple, ce qu'on appelle le crowd equity, c'est-à-dire l'investissement en capital. C'est j'investis dans le capital d'une entreprise et c'est quelque chose qui aide énormément d'entrepreneurs qui ont le profil de ceux que je vous ai présentés plus haut. Et ça, c'est quelque chose qui peut être porté par plein d'acteurs différents, mais qui peut véritablement avoir un impact sur le territoire. Je dirais la dimension du dessus, c'est les fonds d'investissement locaux. Donc un fonds d'investissement, c'est un petit peu différent parce que ça vise à vraiment à investir en fonds propres dans les entreprises, mais des entreprises d'une taille un peu plus importante. Un exemple, c'est le... Donc il y a très peu d'exemples de ce type en France qui existent. Un exemple, c'est celui d'Ericoa, qui est un fonds d'investissement régional basque dans lequel plusieurs centaines de micro-investisseurs basques qui ont un petit peu d'argent, pas forcément beaucoup d'ailleurs, investissent dans ce fonds. Et ce fonds investit dans des PME basques et dans des secteurs dont le territoire basque a besoin. C'est un très bon exemple, alors, qui a tout un tas de labels, parce qu'en fait, ça investit uniquement dans des secteurs d'activité dits responsables, par ailleurs. Et ça, c'est assez intéressant parce que c'est pas porté par une grande banque, c'est un acteur assez historique Voilà, c'est un cas assez intéressant. Et enfin, le dernier exemple, toujours sur la partie financière, c'est celui des cartes de paiement, des cartes de fidélité locales. Alors, je ne parle pas des monnaies locales, j'en ai pas parlé ici. Les monnaies locales, bien évidemment, c'est donc les monnaies vous voyez, format papier qui se développent beaucoup. On peut avoir un impact très important sur les territoires, mais souffrent souvent de difficultés dans le marketing, dans la gouvernance, dans l'autofinancement. Et pour répondre à ces limites, se sont développés, surtout aux États-Unis, des systèmes un peu plus fluides sous forme de cartes. Donc, par exemple, ça peut être soit des cartes de paiement, comme une carte de paiement classique, Visa, Mastercard. Donc là, vous avez par exemple à Bernal Bucks aux États-Unis, en partenariat avec Visa, ils ont développé la carte de crédit local ou la carte de paiement local, pardon. Et cette carte, en fait, permet de faire n'importe quel achat. On peut faire tous les achats du quotidien avec. Et lorsque c'est fait dans un commerce local ou auprès d'un artisan, enfin voilà, auprès d'un écosystème bien défini et bien listé, et ben en fait c'est des points fidélité, des points de réduction dans le magasin, etc. etc. Et ça marche énormément. Après ça peut forcément aussi être limité à des cartes de fidélité et pas forcément des cartes de paiement. Donc se développent de plus en plus des cartes de fidélité locales, multi-magasins. Par exemple, voilà, la carte de fidélité du cœur de ville, la carte de fidélité, voilà. Après il faut bien définir quels sont les lieux qui rapportent des points. Mais la carte de fidélité locale, c'est quelque chose qui permet d'inciter dans des achats locaux et permet de dépasser par exemple, tout un tas de limites qu'on peut trouver dans de la monnaie locale. On peut faire ses achats classiquement avec de la monnaie tout à fait normale et être incité à dépenser son argent dans ses magasins locaux. Voilà pour les 10 idées de soutien aux entrepreneurs. Je ne sais pas si vous... Comme pour les entrepreneurs, même si certaines de ces idées vous semblent prioritaire pour le territoire au regard de votre connaissance du territoire. Voilà, je vous laisse la parole.
Des questions, des envies, des remarques? On va dire que non. Et donc, mais en même temps, l'heure avance et ça doit aussi compter. On va vous proposer de conclure sur votre intervention, si vous voulez.
Ce qui est assez intéressant, c'est que sur le réenracinement de l'économie locale, ça peut être porté par n'importe quel type d'acteur économique, je le disais tout à l'heure, public, privé. La question, c'est d'arriver collectivement à faire émerger ces entrepreneurs et de les aider. L'intérêt, je pense, d'un conseil de développement, c'est aussi de se poser la question de comment collectivement on peut être entrepreneur, on peut les aider, on peut créer des formats d'entreprise tout à fait différents, parce que j'en ai pas parlé, mais ce sont des gouvernances souvent très différentes, des coopératives par exemple. De réfléchir collectivement à faire naître, ces projets. Et voilà, dans les exemples que j'ai montrés à la fin, je pense qu'il y a des mouvements qui me sembleraient être une première étape, je parle de start-up de territoire. En tout cas, insuffler en fait cette dynamique du réenracinement sur votre territoire, je pense que ce sont des mouvements qui pourraient aider en tout cas le territoire à travailler, à commencer à travailler sur ces questions et à faire. Moi, je crois beaucoup à la créativité collective, donc je pense que voilà, il y a peut-être quelque chose à faire dans ce sens-là. Voilà, je vous remercie.
Un grand merci donc à Arnaud Florentin, parce que c'est vrai qu'il nous a fait un éclairage un petit peu économique sur notre territoire. Je pense que ça va nous servir à tous, les élus ici présents, mais aussi aux différents groupes de travail du Conseil de développement. Je pense que on a des pistes de réflexion. On en parlera entre nous. Donc merci Arnaud beaucoup. C'était un peu technique par moment, c'est vrai. Mais il y a quand même des données qui sont intéressantes. Un grand merci aussi à notre hôte, Sinanova. Je ne sais pas si le directeur est là, mais enfin, c'est fort sympathique de nous accueillir ici. Un autre merci au vidéaste là-haut, derrière. Un merci spécial aussi, oui. Merci à Agathe et Charlotte, que vous avez vu au début de la prestation. Je me suis permis de les inviter parce que l'accessibilité de l'information, là aussi, pour tous, peut passer par ce genre de gens qui nous font une traduction. Par le langage des signes. Donc, pour nos élus ici, ça peut être aussi dans vos réunions publiques fort utile. Merci aux responsables de groupe du CD et merci à tous les membres du Conseil de développement qui sont là, bien sûr. Sans oublier, bien sûr, un merci spécial à Brigitte. Donc un grand merci à vous tous pour ce débat démocratique qui n'est qu'un début puisqu'il y en aura d'autres. Et puis, ben, je vous invite maintenant à continuer cette discussion dans le hall où il y a le verre de l'amitié ou autre, et pour continuer toute discussion que vous pourriez nous avoir. Merci à vous et bonne fin de journée. Merci.
Merci.